Et avant de lire dans les Écritures, nous prions. Dieu éternel, tu crées et tu recrées le monde et l'être humain. Et tu nous as destinés à la vie éternelle dès maintenant. Donne-nous le souffle de ton esprit pour qu'à travers notre lecture des Écritures et à travers nos paroles et nos actes, nous soyons témoins de ta parole et exprimions notre appartenance au parti des vivants à la suite de ton Fils, notre frère. Amen. Il y a deux textes bibliques pour ce culte. Le premier, c'est le psaume 23, choisi par Jessica et Nicolas. Et puis auquel je vous propose d'associer un extrait de l'évangile de Jean au chapitre 10. Mais je vais relire quand même le psaume 23 pour ceux, pour tous. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Et donc, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 11 à 18, cet extrait dans lequel Jésus reprend pour lui-même l'image du berger, et c'est lui qui parle à ses disciples. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je me dessaisis de ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je me dessaisis de ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je m'en dessaisis de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en dessaisir et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors, chers amis, il n'est pas certain qu'avec nos mentalités du XXIe siècle, et puis avec nos mentalités de citadins pour la plupart d'entre nous ici, il n'est pas certain que nous soyons satisfaits d'être considérés comme des brebis ou comme des moutons. L'image n'est pas vraiment positive associée à un troupeau bel an, dans lequel il n'est pas évident de distinguer une brebis d'une autre, car à moins d'être un familier des troupeaux, d'observer longuement le travail d'un berger, rien ne ressemble plus à un mouton qu'un autre mouton. Dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, le mouton est un des animaux principaux pour les sacrifices au temple. Au moins deux moutons par jour, et plus certains autres jours, comme les jours de Shabbat ou la Pâque. Et puis, également Rabelais est passé par là au XVIe siècle avec l'histoire des moutons de Panurge, dans laquelle Panurge, fâché avec le propriétaire d'un troupeau, jette à l'eau un des moutons. Le reste du troupeau saute dans l'eau à la suite du premier et tous les moutons se noient. Une histoire particulièrement insupportable pour les protestants qui n'imaginent pas de se comporter ainsi et s'affligent ou s'agacent lorsque d'autres le font de gré ou de force. Pas question de renoncer à la liberté de conscience, à la faculté de penser, à la possibilité de questionner. Et ici, au foyer de l'âme, nous nous efforçons de favoriser, d'encourager la capacité de chacun à parler en son nom propre, de sa vie, de sa foi, à creuser et exprimer ses propres convictions et interprétations, à faire part de ses interrogations, à développer son sens critique, à suivre son propre chemin de vie et de foi. Et si nous le faisons ensemble, c'est parce que chacun a besoin des autres pour être et devenir lui-même. Mais surtout, ne pas devenir ni être un mouton. Nous ne le voulons ni pour Laurine, ni pour nous, ni pour personne. Parce que nous croyons profondément que Dieu ne le veut pas non plus. Pas un de ces moutons, comme les moutons de Panurge, ni les moutons destinés à être sacrifiés. Et cette conviction est appuyée sur des textes bibliques, en particulier le psaume 23 et les paroles et paraboles de Jésus dans l'évangile de Jean. Nous le comprenons avec le psaume 23 tout simplement déjà parce que c'est une prière écrite à la première personne du singulier. L'Éternel est mon berger. Et celui ou celle qui prie ainsi reconnaît l'Éternel comme son berger. Et cette reconnaissance, comme toute reconnaissance, représente un engagement de la personne dans une relation personnelle. Mon berger. Pas le mien à moi seul, bien sûr, mais mon berger, celui en qui j'ai confiance, à qui je fais confiance, le berger que je choisis de suivre et que je connais comme le berger qui se préoccupe de moi, qui se soucie de mon âme et de ma vie. Le psaume 23, c'est le psaume d'un sujet, d'une personne singulière dont la confiance n'altère ni la lucidité ni la liberté. Confiance qui, justement, n'est ni aveugle ni bêlante, mais confiance d'une personne qui a conscience d'elle-même et que sa vie, son âme, repose dans un au-delà d'elle-même et sont enracinées dans la transcendance. Confiance d'une personne qui a conscience que d'autres font d'eux-mêmes, cherchent à faire d'eux-mêmes. Lucidité d'une personne qui ne s'illusionne pas sur l'existence humaine et ses épreuves, la vallée de l'ombre de la mort, les adversaires. C'est-à-dire d'une personne qui discerne ses limites, les limites de son humanité, les limites en matière de restauration de son être, en matière de justice, de grâce et de bonheur, ce que nous ne pouvons pas faire ni être par nous-mêmes, mais seulement en les recevant de l'Éternel berger qui est avec nous. C'est la confession de foi qui est au cœur, au centre du psaume. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et puis liberté, liberté d'une personne libérée justement de l'emprise de l'ombre de la mort, cette emprise qui empêche l'être humain de vivre véritablement dans le temps de son existence. Liberté d'une personne libérée aussi de la peur des adversaires qui ne peuvent pas la priver de l'onction de l'Éternel berger, c'est-à-dire du choix, de l'élection et de la dignité que l'Éternel Dieu lui confère. Et le baptême est un signe qui parle de ce choix, de cette élection, de cette dignité que que Jésus de Nazareth est venu annoncer et vivre comme la bonne nouvelle de la reconnaissance inconditionnelle de chacun. « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, » dit Jésus le Christ. Cette connaissance mutuelle indique que la relation du bon berger aux brebis n'est pas de l'ordre de la possession ni de la domination. Ah, il y a bien une manière de dire à quelqu'un « je te connais » qui est une façon de l'enfermer dans une parole définitive qui ne laisse aucune ouverture, dans un jugement qui étouffe toute possibilité de nouvelles chances ou de transformation. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus parle de sa connaissance de ses brebis. Et il ne s'agit pas non plus de suivre un chef devant lequel il n'y aurait plus qu'à démissionner de toute responsabilité, démissionner de sa propre parole et de son propre nom. Connaître, c'est entrer dans une dynamique de relation, engagement et accueil, relation personnelle dans laquelle le « quant à soi » et l'anonymat sont impossibles. Nous avons tous un nom, notre nom. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Nous pouvons entendre « je connais chacune de mes brebis et chacune d'elles me connaît ». C'est dire que le troupeau de ces brebis-là ne forme pas une masse de brebis indistinctes les unes des autres, un troupeau où seul compterait le nombre des brebis. Le troupeau, le rassemblement d'humains appelés, chacun est connu et unique dans sa singularité. C'est un rassemblement où chacun compte. Et ce compte-là, le compte dans lequel chacun compte, est le seul compte évangélique, la seule manière de compter qui se réfère au Christ. Ainsi, la diversité et les différences sont des caractéristiques essentielles de l'ensemble des brebis, du troupeau, de l'Église, l'Église du Christ, d'où nous ne connaissons ni les limites ni la composition exacte. Et s'il n'y a qu'un seul troupeau, avec les brebis d'ici et celles d'ailleurs, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul berger, le bon berger. Ce qui rassemble les troupeaux, ce n'est pas un enclos, des barrières, des murs, c'est une voix, la voix du bon berger, une voix, un appel, une reconnaissance, une nomination singulière. Reconnaître, connaître, naître. Chaque fois qu'une personne est appelée par son nom, elle est appelée à l'existence. Le baptême de Laurine nous le rappelle aujourd'hui. Un appel comme une autre manière de dire que Dieu nous conduit, nous guide, qu'il trouve et ouvre des passages aux vivants effrayés ou coincés, fatigués ou désemparés, blessés ou menacés. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et c'est là une bénédiction, comme celle prononcée sur Laurine tout à l'heure lors de son baptême, comme celle qui sera posée sur chacun de vous en dernière parole du culte. Bénédiction qui est reconnaissance inconditionnelle et encouragement à vivre. Il n'y a pas de bénédiction si le berger n'est pas le bon berger, car il serait alors un mercenaire. On peut traduire aussi un salarié, fuyant à l'approche du loup, dit Jésus dans sa parabole, car celui qui n'est pas le bon berger pense à son propre intérêt, à ce qui lui sera payé, et n'a pas beaucoup d'intérêt pour le troupeau et chacune des brebis. Elles ne sont pas son souci premier et principal. Il se sert lui-même avant tout et tous. Il ne s'investit pas en relation de reconnaissance avec les brebis. Et certainement, Jésus pense-t-il aux dirigeants, aux chefs et même religieux préoccupés de leur propre puissance, ceux auxquels le prophète Ézéchiel, bien avant Jésus-Christ, s'adressait sans ménagement. Quel malheur pour les bergers d'Israël qui se repaissent d'eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas faire paître le troupeau ? Vous mangez la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez sacrifié les bêtes grasses. Vous ne faites pas paître le troupeau. Vous n'avez pas fait reprendre des forces aux bêtes qui étaient faibles, ni soigné celles qui étaient malades, ni pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, ni cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec force et rudesse. Et elles se sont dispersées, faute de bergers. Elles sont devenues la proie de tous les animaux sauvages. Alors que le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire que le bon berger communique sa vie aux brebis. Dans la réciprocité de la reconnaissance, c'est la même vie qui circule entre le berger et les brebis. Alors qu'habituellement, ce sont les brebis qui permettent à un berger de vivre grâce à leur lait, à leur viande, à leur laine. Avec le bon berger, c'est le contraire. C'est que l'humain est au cœur de l'œuvre du Christ. Afin que l'humain vive une vie en plénitude, la vie éternelle, selon l'expression de l'évangéliste Jean, ce qui n'est pas une vie après la mort, mais une qualité de vie destinée aux vivants, une vie dans la confiance, dans l'amour et dans l'espérance. C'est la qualité de vie à laquelle Laurine est appelée, même si elle ne le sait pas encore. La qualité de vie à laquelle chacun de nous est destiné. Car Jésus de Nazareth n'a pas instauré une religion, ni commandé un état d'être à atteindre, ni une et une seule expression de foi, ni des conditions de mérite. Il a proposé une relation avec le Dieu qu'il révélait, une relation dont le Christ ressuscité est toujours aujourd'hui la puissance, la vitalité, l'énergie. Une relation de transformation et d'accomplissement de l'être humain. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis, en parfaite adhésion à la volonté du Père qui est de sauver les humains et le monde. Il se dessaisit de sa vie avec une parfaite lucidité sur ce qui l'attend, sur ce qui advient, et même la mort. Il accepte de ne pas se cramponner à sa vie, parce que c'est ainsi qu'il témoigne et accomplit l'œuvre de Dieu. Il ne maîtrise pas les événements. Il renonce à l'illusion que les relations humaines puissent être toujours satisfaisantes, mais il reste fidèle, nourri de la volonté du Père. Et son passage par la mort, qui semble un échec, est transformé en nouveau commencement. Les quatre évangiles témoignent chacun à leur façon, avec leur spiritualité, leur sensibilité, leur lumière, de la manière dont Jésus de Nazareth, le Christ de Dieu, a assumé l'humanité. Il y a là quelque chose pour nous. Un horizon et un élan pour nous indiquer ce que signifie être humain devant Dieu. Quelque chose que nous pouvons écouter, méditer et puis interpréter chacun dans sa propre existence. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre que la foi, comme réponse à l'appel de notre nom, comme réponse à une libération, est fondamentalement une liberté. Celle d'une conscience, d'une âme et d'une vie réveillée, relevée dans une existence aimée. Car s'agissait-il autre chose que d'amour dans ce renoncement à la possession et à la violence, dans cette reconnaissance inconditionnelle et ce service d'autrui afin qu'il vive et devienne l'auteur de sa propre existence? Parce que cette vie, à laquelle nous sommes destinés est sa vie, notre vocation est d'être nous aussi des Christ, recevant l'onction, la bénédiction de l'Éternel. C'est ce que signifie le mot Christ, celui ou celle qui a reçu l'onction. Notre vocation est de vivre de grâce et d'accompagner, de prendre soin. Notre vocation est d'être libérée et de servir et d'aimer, libérée pour servir et aimer et vouloir que l'autre vive. Puissions-nous laisser cet amour spirituel et réel imprégner nos amours de femmes, d'hommes, de parents, d'enfants, de frères ou de sœurs, d'amis. Amen.